Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant l'importance de la rédemption. Le titre de notre étude numéro 20 ce matin sera l'importance des réunions de prière. Il est dit dans Saint Matthieu, chapitre 18, verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Jusqu'ici, j'ai seulement parlé de la prière secrète. Je vais maintenant parler de la prière en commun où deux personnes ou plus s'unissent pour prier. Des réunions de ce genre ont eu lieu fréquemment depuis le temps de Christ, et il est probable que les enfants de Dieu ont toujours eu l'habitude de prier en commun toutes les fois qu'ils en ont eu le privilège. Je ne discuterai pas la question de l'unité de cette pratique et je n'insisterai pas sur le devoir de la prière en commun. Je ne discuterai pas non plus la question si deux chrétiens quelconques s'accordent pour demander une bénédiction, s'ils seront sûr de pouvoir obtenir leur requête étant exaucée. Mon dessein est de faire seulement quelques observations sur les réunions de prière. Il est vrai que tout a changé dans les années après les années de 2000, 2013, etc., les choses sont devenues tellement terribles dans le monde entier, surtout dans les villes, que il est dangereux pour des personnes, même pas forcément âgées, de sortir le soir ou le matin, n'importe, pour aller à une réunion de prière. Cela devient compliqué avec tout ce qu'il se passe. Et tout le monde sait que le pire est à venir. Bref, nous allons donc tout de même essayer de voir l'importance de la prière en commun. Premièrement, le but de ces réunions, deuxièmement, la manière de les diriger, et troisièmement, différentes choses qui font échouer une réunion de prière. Donc, premièrement, nous avons le but des réunions de prière. L'un de ces buts est de favoriser l'union des chrétiens entre eux. Rien ne tend plus à cimenter les cœurs que de prier ensemble. Jamais les chrétiens ne s'aiment autant les uns et les autres que lorsque ils s'entendent réciproquement, vraiment, et de pouvoir ainsi répandre leur cœur dans la prière, de déverser leur cœur dans la prière. Leur spiritualité fait naître un sentiment d'union et de confiance qui est de la plus haute importance pour la prospérité de l'Église. bien sûr, pour autant que cela peut encore se faire. Il serait bien étonnant que les chrétiens soient désunis quand ils ont l'habitude de prier ensemble. S'ils ont des sentiments durs, parfois, les uns à l'égard des autres, s'ils ont des différends, ces choses disparaissent, et cela a été constaté, elles disparaissent lorsqu'ils s'unissent dans la prière. Vous avez atteint le but primordial dès que vous avez pu les amener à s'unir réellement dans la prière, si ce point est acquis, les autres difficultés s'évanouissent. Un autre but de ces réunions, c'est de propager l'esprit de prière. Dieu nous a créés tels que nous communiquons nos sentiments. Un pasteur, par exemple, inspirera souvent à son auditoire, les sentiments de son propre cœur. L'Esprit de Dieu qui anime son âme se sert de ses sentiments pour influencer ses auditeurs tout autant qu'il se sert quand il donne un message qu'il proclame du haut de sa chair. L'Esprit de Dieu se sert de même des sentiments des chrétiens. Rien n'est donc plus propice pour engendrer l'esprit de prière que de s'unir dans la prière avec quelqu'un qui a lui-même cet esprit, à moins que cette personne ne soit tellement plus avancée que sa prière n'ait sur eux un effet peut-être contraire. La prière d'une telle personne réveille les autres, surtout s'ils ne sont pas si loin en arrière que, en l'entendant, ils vont pouvoir se révolter malheureusement et vont peut-être même résister. Je dis malheureusement. Or, si leur vie spirituelle se rapproche du degré des sentiments manifestés par ce chrétien, l'esprit qui l'anime attisera leurs propres sentiments, ça devrait, et va se répandre sur eux. Une seule personne qui obtient l'esprit de prière, croyez-moi, elle peut réveiller une église tout entière. Un autre grand but de la prière en commun est d'agir sur Dieu. Non pas que la prière change la volonté ou les dispositions de Dieu, comme je l'ai dit précédemment, mais quand les chrétiens font monter à Dieu des prières, pour autant qui sont selon l'Esprit Saint, ils vont revêtir en quelque sorte une disposition d'esprit qui permet à Dieu de leur accorder une bénédiction. Ils sont alors en état de la recevoir, c'est certain, et Dieu va leur accorder, parce qu'il est toujours le même, toujours prêt à faire miséricorde et à bénir. Quand les chrétiens s'unissent et qu'ils prient comme ils le doivent, Dieu ouvre les fenêtres des cieux et il répand sa bénédiction tellement qu'ils n'y peuvent suffire. Saint Matthieu, chapitre 3, verset 10. Un autre but important des réunions de prière, c'est de convaincre et de convertir les pécheurs. Dirigées d'une manière convenable, elles sont éminemment propres à produire cet effet-là. Les pécheurs sont donc disposés à avoir des sentiments sérieux lorsqu'ils entendent prier les chrétiens. Là où il y a l'esprit de prière, les pécheurs ne peuvent que être touchés. Un impie, un universaliste, c'est la doctrine qui enseigne que tous les hommes seront finalement sauvés. Et cet universaliste disait, en parlant d'un certain pasteur, eh bien, voyez-vous, sa prédication ne m'a pas tellement ému, ni profondément touché, jamais. Par contre, quand il prie, j'éprouve des sentiments terribles, un peu comme si Dieu allait descendre sur moi. Et souvent, les pécheurs sont en effet convaincus de pécher en entendant prier de tout leur cœur et des profonds sentiments de ceux qui prient. Un jeune homme qui était doué de talents remarquables disait, en parlant d'un pasteur auquel il s'était beaucoup opposé avant d'être converti, eh bien, aussitôt qu'il commença à prier, je commençais à être convaincu de péché. Et s'il aurait continué beaucoup plus longtemps, eh bien, j'aurais été incapable de résister. Dès que les chrétiens prient comme ils le devraient, les pécheurs comprennent que c'est bien la prière, cette prière-là, qui va agir, et ils sont saisis. N'ayant pas eux-mêmes l'expérience de la spiritualité, ils ne peuvent se faire une idée de ce que c'est, mais à l'ouïe de pouvoir entendre une véritable prière, là, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose, que Dieu est vraiment présent, et cela les rapproche de Dieu. Une forte émotion les saisit donc, et ils ne peuvent résister. Non seulement ces prières agissent sur l'esprit des pécheurs, mais quand des chrétiens prient avec foi, l'Esprit de Dieu se répand et ils sont empoignés et convertis sur place. Deuxièmement, il y a la manière de diriger des réunions de prière. Ce n'est pas aussi simple que cela. Souvent, il sera bon de commencer une réunion de prière par la lecture d'une courte portion de la Sainte Parole de Dieu, surtout si celui qui dirige a en présence dans son esprit un passage frappant et applicable au but de la réunion ou à la circonstance qui réunit les frères et sœurs. S'il n'a pas de passage approprié, cela peut arriver, alors dans ce cas, il vaudrait mieux qu'il ne lise tout simplement aucun passage biblique. Ne faites pas entrer de force, il ne faut pas forcer la sainte parole de Dieu dans la réunion, et cela sous prétexte qu'elle doit y avoir sa part absolument. C'est là, en quelque sorte, une insulte faite à Dieu. Il n'est donc pas bon d'en lire plus que ce qui s'applique au sujet dont on va s'occuper. Il y a des gens qui croient toujours nécessaire de lire des chapitres entiers si longs que lorsque même qu'ils présenteraient des sujets variés, c'est aussi peu judicieux que pour un pasteur de prendre pour texte un chapitre entier, tandis qu'il se proposait de faire pénétrer dans l'esprit de ses auditeurs une vérité particulière. Le but d'une réunion de prière devrait donc toujours être d'amener les chrétiens à se concentrer sur un objet bien défini. Errer à travers un vaste champ d'idées, cela nuit au but et ça peut même l'anéantir. Il est donc bon que celui qui préside ou celle qui préside débute par une remarque courte et appropriée pour expliquer la nature de la prière et mentionner ce qui encourage à prier et pour présenter directement à l'assemblée, à l'église, je n'ai pas ce don personnellement, non, je dois l'avouer. Mais un homme ne peut donc pas plus prier qu'il ne peut faire toute autre chose sans avoir concentré ses pensées. Il y a des gens qui ne sont pas trop doués pour prier, et je fais partie de ceux-là. Ça ne veut pas dire que je ne prie pas. Non, seulement je n'ai pas le don ou je crois que je ne pourrais pas diriger des réunions de prière importantes. Celui qui dirige la réunion doit donc veiller à ce que l'objet, le but de la réunion, soit bien présent à l'esprit des personnes réunies. Si les assistants sont venus avec l'intention de prier que pour des sujets superficiels ou égoïstes, alors il vaudrait mieux qu'ils s'en retournent chez eux. C'est inutile de se tenir là pour se moquer de Dieu en prétendant qu'on vient prier lorsque on n'est pas du tout prêt à s'associer aux autres dans la prière. Après avoir établi nettement l'objet des prières, la personne qui préside devrait en quelque sorte rappeler une promesse ou un principe sur lequel les chrétiens peuvent s'appuyer pour attendre une réponse à leur requête. S'il y a un indice de la providence, une promesse ou un principe général du gouvernement de Dieu qui puisse servir d'appui à la foi, qu'il le rappelle aux auditeurs et qu'il ne les laisse pas prier au hasard sans savoir s'ils ont une raison plausible de s'attendre à être exaucés. Une des raisons pour lesquelles les réunions de prière ont si peu de puissance, c'est que parce que tout simplement, il y en a parmi nous qui pensent que on n'arrivera pas à obtenir ce dont on a vraiment besoin, que Dieu ne répond plus. Alors ça, c'est évidemment quelque chose qui ne va pas aider dans cette réunion de prière pour obtenir vraiment quelque chose. Parfois, il arrive aussi que ce sont les plus spirituels et auxquels on pourrait le mieux s'adresser pour prier, qui ne se trouve pas à ce moment-là dans les dispositions favorables. Ça peut arriver, car nous ne sommes pas toujours la même chose. Il se peut donc qu'il soit froid ou peut-être absorbé par des choses qui les tracassent. Et si c'est le cas, il refroidirait la réunion en laissant prier ceux qui s'y sentent poussés. Vous évitez cet inconvénient-là. Mais même cela ne peut pas toujours se faire en toute sécurité, surtout dans les grandes villes, où une réunion de prière peut être interrompue par des gens qui n'ont absolument rien à faire avec la prière, par peut-être un fanatique ou un esprit troublé ou par un hypocrite ou un ennemi même qui ne ferait que jeter le trouble. Cependant, il reste vrai que, en général, que la marche libre peut être suivie sans aucun danger. Abandonner la réunion à la direction de l'Esprit-Saint de Dieu et laisser surtout prier ceux qui le désirent du fond de leur cœur, si celui qui préside s'aperçoit d'une chose qui doit être redressée, ça peut arriver, qu'il le dise librement, mais surtout avec charité et bonté et amour, qu'il la redresse et qu'on puisse ainsi continuer. Il faut seulement qu'il sache faire des observations au bon moment, et cela de manière à ne pas interrompre le cours des sentiments ou de jeter le froid sur la réunion ou détourner les pensées des assistants du véritable objet qu'ils doivent avoir en vue ce jour-là. Les prières devraient donc toujours être très courtes, c'est préférable. Lorsque des personnes prient très longuement, elles oublient qu'elles ne sont que la bouche de l'assemblée et ne peuvent s'attendre à ce que cette assemblée s'unisse à leur prière. Si elles font tout le tour du monde, mentionnant tout ce qui se présente à leur pensée. Ordinairement, ceux qui prient très longuement le font non pas parce qu'ils ont l'Esprit Saint de la prière, mais bien au contraire, parce qu'ils ne l'ont pas. C'est peut-être difficile pour certains de le croire, mais c'est vrai. Quelques-uns répéteront des prières absolument sans fin, disant à Dieu qui il est, ou ce qu'il est, ou bien ils exposeront dans la prière tout un système de théologie compliqué. D'autres prêcheront en quelque sorte ou exhorteront les gens dans la prière jusqu'à ce que chacun désire vraiment qu'il en finisse et que Dieu le désire aussi. On devrait donc être précis et s'en tenir uniquement au sujet pour lequel on est venu prier, et ne pas suivre l'imagination de son propre cœur en parcourant l'univers tout entier. Chacun devrait prier pour un objet unique. Il est bon pour chaque personne d'avoir un sujet de prière. Deux ou plus peuvent donc prier pour le même objet ou chacun pour un objet différent. Si la réunion a été convoquée afin de prier pour une chose très spécifiée, eh bien que tous prient pour cela. Si le but de la réunion est plus général, que ceux qui prient choisissent leur sujet de prière selon qui les ont à cœur. Si l'un se sent particulièrement poussé à prier pour l'Église, qu'il le fasse, qu'un autre en fasse autant s'il s'y sent disposé. Peut-être le suivant sera-t-il poussé à prier pour les pécheurs, et bien qu'il le fasse. Mais dès qu'il a fini, qu'il s'arrête. Toutes les fois qu'un homme est pénétré d'un sentiment profond, ou une femme, c'est par rapport à une chose spéciale. Si il ou elle prie pour cela, il priera de l'abondance, elle priera de l'abondance du cœur, et il lui sera naturel de s'arrêter quand son cœur sera satisfait. Si au cours de la réunion, il devient nécessaire de changer de sujet de prière, que celui ou celle qui préside en informe les assistants et donne quelques mots d'explication. S'il s'agit de prier pour l'Église ou pour des chrétiens qui sont déchus ou pour des pécheurs, ou encore pour des païens invétérés, qu'ils le disent clairement et qu'ils présentent le sujet de prière aux assistants et leur en parlent de façon à les amener à penser et à sentir profondément avant de prier. Qu'ils leur rappellent, si c'est nécessaire, les preuves sur lesquelles ils peuvent appuyer leur foi, qui les conduisent ainsi directement au trône de la grâce et qu'ils saisissent la main de Dieu. Ceci est tout à fait en accord avec la logique de l'esprit humain. Les gens agissent toujours ainsi quand ils prient en secret. Ils devraient en être de même dans les réunions de prière. Il est important que le temps dont on dispose soit pleinement employé afin qu'il n'y ait pas de ces longs silences qui produisent une mauvaise impression et qui glacent la réunion. Je sais que certaines églises ont des moments de prière silencieuse, mais dans ce cas, on devrait exhorter spécialement à prier en silence pour que tous sachent pourquoi l'on est silencieux. L'effet produit par ce temps de silence, alors qu'une église entière élève ses pensées vers Dieu, est souvent des plus puissants. Ceci est bien différent de ces longs intervalles qui sont totalement silencieux, mais qui proviennent de ce que absolument personne désire de prier. Or, un tel silence est comme un souffle glacé, un souffle de mort sur cette réunion. Il est donc très important que celui ou celle qui dirige la réunion exhorte les pécheurs qui pourraient se trouver présents à se repentir immédiatement. Elle devrait encourager avec zèle les chrétiens présents à prier de telle manière que les pécheurs sentent qu'on s'attend à ce qu'ils se repentir immédiatement. Ceci inspirera aux chrétiens de la compassion, j'en suis certain, et de l'amour pour les âmes. Et troisièmement, les différentes choses qui font échouer une réunion de prière, eh bien cela existe. S'il y a malheureusement manque de confiance en celui ou celle qui dirige la réunion, il n'y a pas à espérer de très bons résultats. Quelle que soit la cause de cette méfiance, que ce chrétien soit digne de blâme ou non, le seul fait que c'est lui ou elle qui dirige la réunion jettera un froid et empêchera toute bénédiction. J'en ai été témoin dans des églises où il y avait un ancien ou un diacre estimé être fautif, à juste titre ou non, et qui était appelé à présider une réunion de prière. La réunion se mourait sous son influence. S'il y a donc un manque de confiance en la piété de celui ou celle qui dirige, en ses capacités, son jugement, ou quoi que ce soit d'autre en rapport avec la réunion, tout ce que il ou elle dira ou fera tombera malheureusement à terre. Dans certaines églises, les anciens sont si loin d'être des hommes spirituels qu'ils glacent toujours la réunion de prière. En même temps, ils sont souvent étonnamment jaloux de leur dignité et ne peuvent supporter que quelqu'un d'autre préside. Si un membre spirituel de l'Église prend une initiative, ils lui feront des remarques disant « Quoi ? Vous n'êtes pas un ancien ni un diacre. Il ne vous appartient donc pas de conduire une réunion de prière en la présence d'un ancien. Ainsi, ils sont un obstacle et l'Église souffre de leur influence désastreuse. Un homme qui sait que ses dispositions intérieures ne sont pas spirituelles n'a pas à diriger une réunion de prière, car il la tuerait, et cela pour deux raisons. D'abord, il n'aura pas de discernement spirituel et il ne saura ni comment ni quand il faut agir. Un homme spirituel peut discerner les mouvements de la Providence, il peut sentir l'Esprit de Dieu et comprendre pour quel objet Dieu pousse les gens à prier, il saura dès lors placer les sujets devant l'Assemblée au moment favorable et faire un bon emploi des dispositions intérieures des chrétiens assemblés. Il ne bouleversera pas les sentiments d'une assemblée en introduisant des sujets qui ne sont pas indiqués pour ce moment-là. Il aura le discernement spirituel nécessaire pour comprendre la façon dont l'Esprit Saint dirige et comment il agit sur ceux qui prient. Il saura poursuivre la réunion en accord avec les directions de l'Esprit. Supposons une réunion dirigée par un homme ou une femme qui n'est pas spirituel. On vient de faire deux ou trois prières. L'esprit de prière se manifeste, mais cet homme ou femme, n'ayant pas le discernement pour s'en rendre compte, se met à faire des remarques sur un autre point ou se met à lire une page d'un livre dont la pensée est aussi éloignée des sentiments de l'Assemblée que nous le sommes du pôle Nord. Ceux qui ont l'esprit de prière savent aussi distinctement quel doit être l'objet de leur prière que si le Fils de Dieu était venu lui-même, oui, lui-même, dans l'Assemblée, dans l'Église, et qu'il aurait nommé l'objet. Mais celui ou celle qui préside bouleversera tout parce que il ou elle a si peu de bon sens spirituel qu'il ou elle ne sait pas voir ce que la réunion elle-même lui indique. Le second défaut de celui ou celle qui dirige, s'il n'est ou elle n'est pas spirituel, c'est qu'il sera ennuyeux et sec dans ses remarques et dans tout ce qu'il fera. Il lira un long cantique d'un ton qui endort toute l'Église. Puis un long passage de l'Écriture, et cela d'un ton si froid que ce sera comme si un souffle glacé passait sur toute l'assemblée. Et tout y sera lourd aussi longtemps que cet homme ou femme, au cœur froid, sera appelé à présider la réunion de prière. Un autre obstacle serait le manque de capacité chez celui ou celle qui dirige. S'il lui manque les dons propres à rendre la réunion efficace, s'il n'a rien à dire, si ses remarques sont totalement déplacées au point de produire la légèreté ou le mépris, si elles ne contiennent rien qui fasse impression sur les esprits ou si elles ne sont pas appropriées au but de la réunion, il ou elle nuira totalement à cette réunion de prière. Un homme ou une femme peut être très pieux et pourtant, spirituellement parlant, tellement faible que loin d'édifier par ses prières, il ou elle va créer plutôt un sentiment de pitié chez les assistants. Et s'il en est ainsi, il vaut évidemment mieux qu'il ou elle se taise. Quelquefois, les bienfaits d'une réunion de prière sont détruits par un mauvais esprit chez celui qui la dirige. Si par exemple, au moment d'un réveil, il se manifeste une grande opposition et que celui qui préside la mentionne et la commente, il détourne la réunion de son but, il ne sait de quel esprit il est animé. Et des pareilles choses sont toujours désastreuses. Que celui qui est appelé à conduire l'Église prenne donc soin de veiller sur son propre esprit, de peur qu'il ne la fourvoie et ne répande de mauvaises dispositions. La même chose est vraie pour quiconque est appelé à parler ou à prier. S'il introduit dans ses remarques ou dans ses prières une chose qui touche à la controverse, qui soit déplacée, déraisonnable, non scripturaire, voire ridicule ou futile, n'importe quoi de ce genre va éteindre le souffle doux et subtil de l'esprit de prière et évidemment anéantira la réunion. Arriver en retard à la réunion est un très grand obstacle à sa bonne marche. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai. Quand les gens ont commencé à prier et que leur attention est concentrée, qu'ils ont fermé les oreilles pour que rien d'autre ne s'introduise dans leur esprit, voici que, au milieu d'une prière, quelqu'un entre, peut-être même avec un pas lourd, et traverse la pièce. Plusieurs lèveront les yeux, c'est évident, et toutes les pensées seront distraites. Puis, elle se concentre de nouveau, on va de nouveau se concentrer, mais voilà que quelqu'un d'autre entre encore, et ainsi de suite. Je suppose que le diable ne se fait guère de soucis, lors même que bon nombre de chrétiens vont à la réunion de prière, pourvu qu'il y en ait qui entrent quand la réunion est commencée. Il doit donc se réjouir, le diable, lorsqu'il en voit, je ne sais combien, qui détourne l'attention des assistants en se faufilant d'une façon très pieuse, évidemment, et distrayante. Dans quelques endroits, on a coutume de commencer une réunion de prière par la lecture d'une longue portion de l'Écriture sainte. Puis, un diacre ou un ancien indique un long cantique, et puis on le chante, puis le diacre fait une longue prière, priant pour les Juifs et pour la totalité des nations, voire la Chine, la Mongolie et j'en passe, et pour une foule d'objets qui n'ont rien à faire, absolument rien à faire, avec le but de la réunion. Après cela, il lit peut-être un très long extrait d'un livre ou d'un journal, puis il vient encore un autre long cantique et une autre longue prière, et évidemment là, on retourne chez soi. Chez soi, totalement vidé de tout et déçu, surtout déçu. Dans une ville, une réunion de prière avait lieu où un peu de vie semblait naître. Et quelqu'un proposa qu'il se fît successivement deux ou trois prières pendant que l'assemblée resterait à genoux. Et voilà qu'un homme, esclave de sa grande dignité, s'y opposa et il dit qu'on n'avait jamais fait cela et qu'il espérait bien qu'on n'introduirait point d'innovation, car il ne les aimait pas. Ça fut le coup de mort pour le réveil. De pareilles personnes sont résolues à ne jamais sortir de leur ornière, qu'il y ait une bénédiction à attendre ou non. Permettre une chose pareille serait un procédé nouveau, et il n'aime surtout pas les procédés nouveaux. Trop de chants nuit souvent à une réunion de prière. L'agonie suscitée par l'esprit de prière ne pousse pas les gens à chanter. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour chanter et un temps pour prier. Mais je connais le travail d'enfantement pour les âmes, et je peux vous assurer que les chrétiens ne sentent jamais moins le besoin de chanter que lorsqu'ils ont l'esprit de prière en faveur des pécheurs. Quand on chante dans une réunion de prière, les cantiques devraient être courts et choisi de façon à produire une impression profonde sur les pécheurs et sur les chrétiens, qu'il ne soit donc pas question de ces chants joyeux qui mettent à l'aise les uns et les autres et détournent complètement l'esprit du but de la réunion. Le chant ne devrait pas éteindre les sentiments solennels, mais devrait les approfondir. Chanter avec à propos certains cantiques ont leur place dans une réunion de prière et ont parfois produit de puissants effets sur les pécheurs. On nuit souvent à une réunion de prière en proposant aux jeunes convertis, de chanter de joyeux cantiques. Mais ceci est absolument hors de propos. Ce n'est pas le moment pour eux de donner libre cours à leurs sentiments en chantant très joyeusement, alors que autour d'eux, tant de pécheurs, leurs anciens compagnons, sont sur le chemin de l'enfer. Fréquemment, un réveil est étouffé par l'Église et par le pasteur, se livrant au chant avec les jeunes convertis. Ainsi, en s'arrêtant pour se réjouir, alors qu'il devrait avoir des sentiments de plus en plus profonds à l'égard des perdus, eh bien, cela ne va pas être la meilleure méthode pour recevoir des bénédictions. Celui qui dirige ou celle qui dirige les participants devrait veiller avec le plus grand soin sur les mouvements de l'Esprit de Dieu. Qu'on n'éteigne pas l'Esprit sous prétexte de prier selon la coutume adoptée, qu'on évite tout ce qui détourne l'attention de l'objet placé devant l'assemblée. Toute affectation d'un sentiment qu'on n'éprouverait pas véritablement doit surtout être évitée. Presque toujours, les assistants s'aperçoivent s'il y a affectation. Dans tous les cas, l'Esprit Saint s'en aperçoit et en est contristé. Toute résistance à l'Esprit Saint fera aussi échouer la réunion. Il se trouve souvent des gens si froids qu'ils taxeront de fanatisme toute manifestation de l'esprit de prière et s'y opposeront même ouvertement. Personnellement, je connais des femmes qui prient beaucoup mieux que moi, je le reconnais. Refuser de prier lorsque on est invité à le faire, cela aussi peut nuire à la réunion. Il y a des gens qui prétendent toujours qu'ils n'ont aucun don. Quelquefois, des femmes refusent de prier sous prétexte qu'elles n'ont aucune habileté pour cela, mais elles seraient bien fâchées si quelqu'un d'autre alléguait contre elles la même raison. Ce prétexte n'est pas toujours sincère. Ce n'est souvent qu'une feinte. Quelques-uns disent qu'ils ne peuvent pas prier avec leur famille, prétextant aussi n'avoir pas le don. Mais on ne pourrait les offenser davantage qu'en disant d'eux, il ne sait pas prier devant sa propre famille. La réplique serait quoi ? Tel et tel parle comme s'il s'imaginait que personne d'autre n'a le don que lui-même. Les hommes ne sont pas portés à avoir d'eux-mêmes une si petite opinion. J'ai vu souvent la malédiction de Dieu tomber sur des chrétiens de cette sorte. Ils sont sans excuse et Dieu n'en acceptera aucune d'excuse. L'homme a une langue pour parler avec ses voisins et ses semblables, et il peut parler à Dieu s'il veut y mettre son cœur, même que 2-3 phrases suffiront. Il n'y a pas besoin de prier pendant 10 minutes. Vous verrez que les enfants de tels gens sont souvent inconvertis et certains tournent même mal. Dieu dit qu'il répandra sa fureur sur les familles qui n'invoquent pas son Saint-Nom. Si j'en avais le temps, je pourrais ranger devant vous toute une armée de faits pour montrer que Dieu stigmatise de sa désapprobation et de sa malédiction ceux qui refusent de prier quand ils le devraient. Et je répète, tous nous pouvons prier, serait-ce que quelques phrases, cela suffit. Jusqu'à ce que ces chrétiens se repentent de ce péché et qu'ils se chargent de cette croix, s'ils veulent appeler la prière une croix, eh bien, ils ne doivent s'attendre, dans ce cas-là, à aucune bénédiction. Souvent, les réunions de prière sont, hélas, beaucoup trop longues. On devrait toujours les terminer pendant que les sentiments sont encore vifs, et non pas les traîner en longueur et encore en longueur jusqu'à ce que tout sentiment soit totalement refroidi et l'esprit de prière totalement parti. Des confessions sans conviction de cœur, croyez-moi, ça ne sert à rien, car elles nuisent à la réunion. Les gens confessent leurs péchés, mais souvent ne les abandonnent jamais. Ça ne sert à rien de confesser dans ce cas-là. Chaque semaine, ils feront la même confession. J'ai connu un homme très pieux, très très religieux, comme on peut dire. Eh bien, il me disait, c'est plus fort que moi, mais je dois faire certaines choses. Ces choses-là étaient complètement contraires à l'éthique morale, et il prétendait que c'était plus fort que lui. Il devait les faire. Et après, à la réunion de prière de la semaine ou de la quinzaine, suivant les églises, il faisait des prières merveilleuses à vous fendre le cœur. J'en étais souvent presque jaloux. Mais voilà, son comportement était horrible. Là, il aurait fallu que on puisse chasser ceux qui le manipulaient en lui. Et vous savez, on n'aime pas nommer ce que c'est. On n'aime pas dire le mot démon. Mais ce sont des démons. Il est clair que des gens ainsi n'ont aucune intention d'abandonner leurs anomalies. Il est évident qu'ils ne songent pas à se réformer. Toute leur religion consiste à faire ces confessions-là. Au lieu d'obtenir ainsi une bénédiction de Dieu, ils n'en retireront qu'une malédiction. un manque de remarques appropriées nuit également aux réunions de prière. On ne dit pas les choses qui conduisent les gens à prier. Peut-être que celui qui préside ne s'est pas préparé lui-même ou n'a pas les dons nécessaires pour diriger l'Église dans la prière, ou bien il ne conduit pas les esprits à s'arrêter à des sujets de prière appropriés. Pour revenir à cet homme tout à l'heure, il faut aussi dire qu'il y a des chrétiens, ça existe, qui sont dirigés, obsédés, dominés par certaines choses dont je vous ai déjà dit le nom, mais qui ne veulent pas en être débarrassés, qui ne le désirent même pas. Dans ce cas-là, évidemment, ils ne vont jamais être délivrés. Il y a des obstacles lorsque des personnes qui devraient se taire se mettent en avant pour parler et pour prier longuement. Quelquefois, elles tiennent à prendre part à la réunion de cette manière-là, disant que c'est leur devoir de rendre témoignage pour Dieu en toute occasion, bien qu'étant incapables d'édifier l'Église. Mais en réalité, tout le reste de leur vie, et croyez-moi, en dehors de la réunion, témoigne totalement contre Dieu. Le manque d'union dans la prière, lui, est souvent fort nuisible. Si l'on parle et que les autres ne le suivent pas, parce qu'ils pensent à autre chose, les cœurs ne s'unissent pas pour dire Amen. C'est aussi mauvais que si une personne faisait une pétition, et qu'un autre la révoque, ou que quelqu'un demande à Dieu de faire une chose, et que les autres lui demandent de ne pas le faire, ou d'en faire une autre chose. La négligence dans la prière secrète est également un grand obstacle. Je voudrais maintenant, avant de terminer, faire quelques remarques. Une réunion de prière mal dirigée fait souvent plus de mal que de bien. Dans beaucoup d'églises, la manière habituelle de diriger ces réunions est telle que les chrétiens n'ont pas la moindre idée du but ou de la puissance qu'elles pourraient avoir. Ceci tend plutôt à étouffer les sentiments de piété et l'esprit de prière que à les stimuler. Une réunion de prière est un indice de l'état de la piété dans une église. Si on la néglige ou que l'esprit de prière ne s'y manifeste pas du tout, soyez sûr que l'état spirituel de l'église est plutôt très bas. Tout pasteur devrait savoir que si les réunions de prière sont négligées, son ministère devient nul, à moins qu'il ou elle n'arrive à obtenir des chrétiens de sa paroisse qu'ils assistent aux réunions de prière. Tout le reste de son activité n'améliorera pas l'état spirituel de son église. Une grande responsabilité repose donc sur la personne qui dirige la réunion de prière. Si elle ne fait pas faire de progrès à la piété, la personne responsable doit examiner sérieusement la chose qu'elle recherche l'esprit de prière et se prépare elle-même à pouvoir faire des remarques propres à remettre les choses au point. Personne n'a le droit de présider sans s'y être préparé, aussi bien dans son intelligence que dans son cœur. Les réunions de prière sont les réunions les plus difficiles à maintenir. Et il est juste qu'il en soit ainsi. Elles sont de nature tellement spirituelle que, à moins que celui ou celle qui les dirige ne soit particulièrement préparé à la fois de cœur et d'esprit, et ces réunions autrement vont dépérir. C'est donc en vain qu'il ou elle se plaindrait que les membres de l'Église ne fréquentent pas ces réunions-là. 9 fois sur 10, c'est sa faute. Si sa vie spirituelle était ce qu'elle devrait être, on trouverait la réunion si intéressante qu'on peut dire que tout naturellement, on y assisterait très volontiers. S'il est lui-même ou elle-même froid, morose, déprimé et dépourvu de spiritualité, que tout se fige sous sa main, est-il étonnant que les gens ne viennent pas à la réunion ? Les dirigeants se plaignent souvent et blâment les paroissiens de ce qu'ils ne viennent pas à la réunion de prière, alors que la vérité est qu'eux-mêmes sont tellement froids qu'ils glacent à mort quiconque y viendrait. Oui, les réunions de prière sont des plus importantes pour l'Église. Il est essentiel que les chrétiens les soutiennent afin de favoriser l'union des chrétiens, d'augmenter l'amour fraternel, de développer la confiance entre chrétiens et de favoriser leur croissance dans la grâce et dans leur spiritualité. Les réunions de prière devraient être très fréquentes et si bien organisées que les dons de chaque membre puissent s'y développer. Chacun devrait avoir l'occasion d'y prier et d'y exprimer les sentiments de son cœur. Dans ce but, il faudrait des réunions de prière groupant les membres de l'Église par catégories diverses. Si elles sont trop nombreuses, qu'on les subdivise de manière à ce que tous les membres puissent se mettre à l'œuvre, tous les dons s'exercer, et que l'union, la confiance et l'amour, l'amour fraternel, se répandent partout. Il importe que les inconvertis se rendent aux réunions de prière. S'ils n'y viennent pas d'eux-mêmes, eh bien, allez les inviter. Les chrétiens devraient se donner beaucoup de peine pour amener aux réunions de prière leurs amis et leurs voisins encore impénitents. Ils prieront mieux pour eux quand ils les auront sous les yeux. Nous allons terminer par la prière, mais j'aimerais encore dire, il ne suffit nullement de vous rendre vous-même à ces réunions si tous les membres de l'Église négligent leur devoir d'inviter à la réunion de prière des inconvertis et qu'ils s'y rendent sans amener avec eux aucun pécheur, les objets mêmes de la prière, pourquoi alors ? Pourquoi y venir ? Le grand but de tous les moyens de grâce est de viser directement à la conversion des pécheurs. Vous devriez donc prier pour qu'ils se convertissent sur place. Je ne dis pas réveillés et convaincus de péché, mais au moins convertis et convertis à l'instant. Pas un seul chrétien ne devrait ni prier ni faire aucune observation qui laisse supposer qu'un seul pécheur puisse se retirer avant d'avoir donné son cœur à Dieu. Vous devriez tous lui donner l'impression que c'est maintenant ou jamais qu'il ou elle doit se soumettre. Si vous le faites, Dieu vous exaucera pendant que vous parlez encore. Si les chrétiens manifestaient qu'ils ont réellement à cœur la conversion des pécheurs et persévéreraient dans la poursuite de ce but, s'ils priaient comme ils le doivent, rarement une réunion de prière aurait lieu sans qu'il y ait quelques conversions, et parfois sans que tous les pécheurs se convertissent. C'est là l'occasion, ou jamais, où les pécheurs devraient se convertir en réponse aux prières. Je n'ai aucun doute que si vous faites votre devoir, vous allez obtenir des conversions dans chacune des réunions de prière de vos groupes. Amenez-y vos familles, vos amis ou vos voisins. Priez pour eux comme vous le devez et vous sauverez leur âme. Soyez-en sûr, si vous faites votre devoir de la bonne manière, Dieu ne tiendra pas sa bénédiction, il ne la retiendra pas. Mais par contre, l'œuvre pourra s'accomplir. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, terminer par la prière. Ô notre Dieu, quelle arme tu mets à notre disposition pour combattre le bon combat de la foi auquel tu nous appelles. Nous te rendons grâce de ce qu'elle ne sent pas le privilège d'un petit nombre, mais de ce qu'elles sont à la portée des plus humbles de tes enfants, et de ce que par elles nous pouvons toujours vaincre en ton saint nom. Donne-nous de sentir toujours plus notre impuissance absolue, afin que nous recherchions chaque jour ton secours et que nous nous revêtions de ta sainte armure. Au fait que nous soyons vigilants, et si tu nous accordes la grâce de remporter quelques victoires, préserve-nous de nous endormir ou de devenir indifférents. Si le prince des ténèbres veille et tourne autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer, ne veillerons-nous pas aussi, afin de ne pas nous laisser surprendre par la tentation? Mais Seigneur, si l'esprit est prompt, la chair est faible, et nous te supplions de nous venir en aide. Nous te recommandons tous ceux qui sont tentés ou éprouvés de quelque manière que ce soit. Fortifie leur foi et mesure leurs forces et leurs besoins. Donne-nous de nous retirer maintenant dans le sentiment de ton pardon et prête à te consacrer demain les forces que tu nous auras renouvelé pour ton service, et cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et Dieu voulant, à demain matin, pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse richement, car il vous aime. À bientôt. Au revoir.